Chapitre 21. La haute lumière de l'intelligence qui naît de la perfection morale ou de la vérité sans mélange s'appelle vertu naturelle ou sainteté primitive. La perfection morale qui naît de la haute lumière de l'intelligence s'appelle instruction ou sainteté acquise. La perfection morale suppose la haute lumière de l'intelligence. La haute lumière de l'intelligence suppose la perfection morale. Voilà le 21e chapitre, par lequel Tzedze a lié le sens du chapitre précédent à celui des chapitres suivants, dans lequel il expose la doctrine de son maître, Kongzi, concernant la loi du ciel et la loi de l'homme. Les 11 chapitres qui suivent renferment les paroles de Tzedze destinées à éclaircir et à développer le sens de celui-ci. Chapitre 22. Il n'y a dans le monde que des hommes souverainement parfaits qui puissent connaître à fond leur propre nature, la loi de leur être et les devoirs qui en dérivent. Pouvant connaître à fond leur propre nature et les devoirs qui en dérivent, ils peuvent par cela même connaître à fond la nature des autres hommes, la loi de leur être et leur enseigner tous les devoirs qu'ils ont à observer pour accomplir le mandat du ciel. Pouvant connaître à fond la nature des autres hommes, la loi de leur être, et leur enseigner les devoirs qu'ils ont à observer pour accomplir le mandat du ciel, ils peuvent par cela même connaître à fond la nature des autres êtres vivants et végétants, et leur faire accomplir leur loi de vitalité selon leur propre nature. Pouvant connaître à fond la nature des êtres vivants et végétants, et leur faire accomplir leur loi de vitalité selon leur propre nature. Ils peuvent par cela même, au moyen de leurs facultés intelligentes supérieures, aider le ciel et la terre dans les transformations et l'entretien des êtres, pour qu'ils prennent leur complet développement. Pouvant aider le ciel et la terre dans les transformations et l'entretien des êtres, ils peuvent par cela même constituer un troisième pouvoir avec le ciel et la terre. Voilà le 22e chapitre. Il y est parlé de la loi du ciel. Chapitre 23. Ceux qui viennent immédiatement après ces hommes souverainement parfaits par leur propre nature sont ceux qui font tous leurs efforts pour rectifier leurs penchants détournés du bien. Ces penchants détournés du bien peuvent revenir à l'état de perfection. Étant arrivés à l'état de perfection, alors ils produisent des effets extérieurs visibles. Ces effets extérieurs visibles étant produits, alors ils se manifestent. Étant manifestés, alors ils jetteront un grand éclat. Ayant jeté un grand éclat, alors ils émouvront les cœurs. Ayant ému les cœurs, alors ils opéreront de nombreuses conversions. Ayant opéré de nombreuses conversions, alors ils effaceront jusqu'aux dernières traces du vice. Il n'y a dans le monde que les hommes souverainement parfaits qui puissent être capables d'effacer ainsi les dernières traces du vice dans le cœur des hommes. Voilà le 23e chapitre. Il y est parlé de la loi de l'homme. Chapitre 24. Les facultés de l'homme souverainement parfait sont si puissantes qu'il peut, par leurs moyens, prévoir les choses à venir. L'élévation des familles royales s'annonce assurément par d'heureux présages. La chute des dynasties s'annonce assurément aussi par de funestes présages. Ces présages heureux ou funestes se manifestent dans la grande herbe nommée Chi, sur le dos de la tortue, et excitent en elle de tels mouvements qu'ils font frissonner ses quatre membres. Quand des événements heureux ou malheureux sont prochains, l'homme souverainement parfait prévoit avec certitude s'ils seront heureux. Il prévoit également avec certitude s'ils seront malheureux. C'est pourquoi l'homme souverainement parfait ressemble aux intelligences surnaturelles. Voilà le 24e chapitre. Il y est parlé de la loi du ciel. Chapitre 25. Le parfait est par lui-même parfait absolu. La loi du devoir est par elle-même loi du devoir. Le parfait est le commencement et la fin de tous les êtres. Sans le parfait ou la perfection, les êtres ne seraient pas. C'est pourquoi le sage estime cette perfection au-dessus de tout. L'homme parfait ne se borne pas à se perfectionner lui-même et s'arrêter ensuite. C'est pour cette raison qu'il s'attache à perfectionner aussi les autres êtres. Se perfectionner soi-même est sans doute une vertu. Perfectionner les autres êtres est une haute science. Ces deux perfectionnements sont des vertus de la nature ou de la faculté rationnelle pure. Réunir le perfectionnement extérieur et le perfectionnement intérieur constitue la règle du devoir. C'est ainsi que l'on agit convenablement selon les circonstances. Voilà le 25e chapitre. Il y est parlé de la loi de l'homme. Chapitre 26. C'est pour cela que l'homme, souverainement parfait, ne cesse jamais d'opérer le bien ou de travailler au perfectionnement des autres hommes. Ne cessant jamais de travailler au perfectionnement des autres hommes, alors il persévère toujours dans ses bonnes actions. Persévérant toujours dans ses bonnes actions, alors tous les êtres portent témoignage de lui. Tous les êtres portant témoignage de lui, alors l'influence de la vertu s'agrandit et s'étend au loin. Étant agrandie et étendue au loin, alors elle est vaste et profonde. Étant vaste et profonde, alors elle est haute et resplendissante. La vertu de l'homme souverainement parfait est vaste et profonde. C'est pour cela qu'il a en lui la faculté de contribuer à l'entretien et au développement des êtres. Elle est haute et resplendissante. C'est pour cela qu'il a en lui la faculté de les éclairer de sa lumière. Elle est grande et persévérante. C'est pour cela qu'il a en lui la faculté de contribuer à leur perfectionnement et de s'identifier par ses œuvres avec le ciel et la terre. Les hommes souverainement parfaits, par la grandeur et la profondeur de leur vertu, s'assimilent avec la terre. Par sa hauteur et son éclat, ils s'assimilent avec le ciel. Par son étendue et sa durée, ils s'assimilent avec l'espace et le temps sans limite. Celui qui est dans cette haute condition de sainteté parfaite ne se montre point. Et cependant, comme la terre, il se révèle par ses bienfaits. Il ne se déplace point. Et cependant, comme le ciel, il opère de nombreuses transformations. Il n'agit point. Et cependant, comme l'espace et le temps, il arrive au perfectionnement de ses œuvres. La puissance ou la loi productive du ciel et de la terre peut être exprimée par un seul mot. Son action dans l'un et l'autre n'est pas double, c'est la perfection. Mais alors sa production des êtres est incompréhensible. La raison d'être ou la loi du ciel et de la terre est vaste en effet. Elle est profonde, elle est sublime, elle est éclatante, elle est immense et éternelle. Si nous portons un instant nos regards vers le ciel, nous n'apercevons d'abord qu'un petit espace scintillant de lumière. Mais si nous pouvions nous élever jusqu'à cet espace lumineux, nous trouverions qu'il est d'une immensité sans limite. Le soleil, la lune, les étoiles, les planètes y sont suspendus comme à un fil. Tous les êtres de l'univers en sont couverts comme d'un dais. Maintenant, si nous jetons un regard sur la Terre, nous croirons d'abord que nous pouvons la tenir dans la main. Mais si nous la parcourons, nous la trouverons étendue, profonde, soutenant la haute montagne fleurie sans fléchir sous son poids, enveloppant les fleuves et les mers dans son sein, sans en être inondée, et contenant tous les êtres. Cette montagne ne nous semble qu'un petit fragment de rocher, mais si nous explorons son étendue, nous la trouverons vaste et élevée. Les plantes et les arbres croissant à sa surface, des oiseaux et des quadrupèdes y faisant leur demeure, et renfermant elles-mêmes dans son sein des trésors inexploités. Et cette eau que nous apercevons de loin nous semble pouvoir à peine remplir une coupe légère. Mais si nous parvenons à sa surface, nous ne pouvons en sonder la profondeur. Des énormes tortues, des crocodiles, des hydres, des dragons, des poissons de toute espèce vivent dans son sein. Des richesses précieuses y prennent naissance. Le livre des vers dit « Il n'y a que le mandat du ciel dont l'action éloignée ne cesse jamais », voulant dire par là que c'est cette action incessante qui le fait le mandat du ciel. Oh, Comment n'aurait-elle pas été éclatante la pureté de la vertu de Wu-Wang? Voulant aussi dire par là que c'est par cette même pureté de vertu qu'il fut Wu-Wang, car elle ne s'éclipsa jamais. Voilà le 26e chapitre. Il y est parlé de la loi du ciel. Chapitre 27. Oh, que la loi du devoir de l'homme saint est grand! C'est un océan sans rivage. Elle produit et entretient tous les êtres. Elle touche au ciel par sa hauteur. Oh, qu'elle est abondante et vaste! Elle embrasse 300 rites du premier ordre et 3000 du second. Il faut attendre l'homme capable de suivre une telle loi pour qu'elle soit ensuite pratiquée. Car c'est pour cela qu'il est dit, si l'on ne possède pas la suprême vertu des saints hommes, la suprême loi du devoir ne sera pas complètement pratiquée. C'est pour cela aussi que le sage, identifié avec la loi du devoir, cultive avec respect sa nature vertueuse. Cette raison droite qu'il a reçue du ciel, et qu'il s'attache à rechercher et à étudier attentivement ce qu'elle lui prescrit. Dans ce but, il pénètre jusqu'aux dernières limites de sa profondeur et de son étendue, pour saisir ses préceptes les plus subtils et les plus inaccessibles aux intelligences vulgaires. Il développe au plus haut degré les hautes et pures facultés de son intelligence, et il se fait une loi de suivre toujours les principes de la droite raison. Il se conforme aux lois déjà reconnues et pratiquées anciennement de la nature vertueuse de l'homme, et il cherche à en connaître de nouvelles, non encore déterminées. Il s'attache avec force à tout ce qui est honnête et juste, afin de réunir en lui la pratique des rites, qui sont l'expression de la loi céleste. C'est pour cela que s'il est revêtu de la dignité souveraine, il n'est point rempli d'un vain orgueil. S'il se trouve dans l'une des conditions inférieures, il ne se constitue point en état de révolte. Que l'administration du royaume soit équitable, sa parole suffira pour l'élever à la dignité qu'il mérite. Qu'au contraire, le royaume soit mal gouverné, qu'il y règne des troubles et des séditions, son silence suffira pour sauver sa personne. Le livre des vers dit: parce qu'il fut intelligent et prudent observateur des événements, c'est pour cela qu'il conserva sa personne. Cela s'accorde avec ce qui est dit précédemment. Voici le 27e chapitre. Il y est parlé de la loi de l'homme. Chapitre 28. Le philosophe a dit: l'homme ignorant et sans vertu, qui aime à ne se servir que de son propre jugement, l'homme sans fonction publique, qui aime à s'arroger le pouvoir qui ne lui appartient pas, l'homme né dans le siècle et soumis aux lois de ce siècle, qui retourne à la pratique des lois anciennes, tombées en désuétude ou abolies, et tous ceux qui agissent d'une semblable manière doivent s'attendre à éprouver de grands maux. Excepté le Fils du ciel, ou celui qui a reçu originairement un mandat pour être le chef de l'Empire, personne n'a le droit d'établir de nouvelles cérémonies. Personne n'a le droit de fixer de nouvelles lois somptuaires. Personne n'a le droit de changer ou de corriger la forme des caractères de l'écriture en vigueur. Les chars de l'Empire actuel suivent les mêmes ornières que ceux des temps passés. Les livres sont écrits avec les mêmes caractères et les mœurs sont les mêmes qu'autrefois. Quand même ils posséderaient la dignité impériale des anciens souverains, s'il n'a pas leur vertu, personne ne doit oser établir de nouvelles cérémonies et une nouvelle musique. Quand même ils posséderaient leur vertu, s'il n'est pas revêtu de leur dignité impériale, personne ne doit également oser établir de nouvelles cérémonies et une nouvelle musique. Le philosophe a dit: j'aime à me reporter aux usages et coutumes de la dynastie des Ya. Mais le petit état de Qi, où cette dynastie s'est éteinte, ne les a pas suffisamment conservés. J'ai étudié les usages et coutumes de la dynastie de Yin. Ils sont encore en vigueur dans l'état de Song. J'ai étudié les usages et coutumes de la dynastie des Chou, et comme ce sont celles qui sont aujourd'hui en vigueur, je dois aussi les suivre. Voici le 28e chapitre. Il se rattache au chapitre précédent, et il n'y a rien de contraire au suivant. Il y est aussi question de la loi de l'homme. Chapitre 29. Il y a trois affaires que l'on doit regarder comme de la plus haute importance dans le gouvernement d'un empire: l'établissement des rites ou cérémonies, la fixation des lois somptuaires et l'altération dans la forme des caractères de l'écriture. Et ceux qui s'y conforment commettent peu de fautes. Les lois, Les règles d'administration des anciens temps, quoique excellentes, n'ont pas une autorité suffisante. Parce que l'éloignement des temps ne permet pas d'établir convenablement leur authenticité. Manquant d'authenticité, elles ne peuvent obtenir la confiance du peuple. Le peuple ne pouvant accorder une confiance suffisante aux hommes qui les ont écrites, il ne les observe pas. Celles qui sont proposées par des sages non revêtus de la dignité impériale, quoique excellentes, n'obtiennent pas le respect nécessaire. N'obtenant pas le respect nécessaire, elles n'obtiennent pas également la confiance du peuple. N'obtenant pas la confiance du peuple peuple ne les observe pas. C'est pourquoi la loi du devoir d'un prince sage, dans l'établissement des lois les plus importantes, a sa base fondamentale en lui-même. L'autorité de sa vertu et de sa haute dignité s'impose à tout le peuple. Il conforme son administration à celle des fondateurs des trois premières dynasties, et il ne se trompe point. Il établit ses lois selon celles du ciel et de la terre, et elles n'éprouvent aucune opposition. Il cherche la preuve de la vérité dans les esprits et les intelligences supérieures, et il est dégagé de nos doutes. Il est sans générations à attendre le saint homme, et il n'est pas sujet à nos erreurs. Il cherche la preuve de la vérité dans les esprits et les intelligences supérieures, et par conséquent, il connaît profondément la loi du mandat céleste. Il est sans générations à attendre le saint homme, et il n'est pas sujet à nos erreurs. Par conséquent, il connaît profondément les principes de la nature humaine. C'est pourquoi le prince sage n'a qu'à agir, et pendant des siècles, ses actions sont la loi de l'Empire. Il n'a qu'à parler, et pendant des siècles, ses paroles sont la règle de l'Empire. Les peuples éloignés ont alors espérance en lui. Ceux qui l'avoisinent ne s'en fatigueront jamais. Le livre des vers dit « Dans cela, il n'y a pas de haine. » Dans ceci, il n'y a point de satiété. Oh oui, matin et soir, il sera à jamais l'objet d'éternelles louanges. Il n'y a jamais eu de sage prince qui n'ait été tel après avoir obtenu une pareille renommée dans le monde. Voilà le 29e chapitre. Il se rattache à ces paroles du chapitre précédent. Placé dans le rang supérieur ou revêtu de la dignité impériale, il n'est point rempli d'orgueil. Il y est aussi parlé de la loi de l'homme. Chapitre 30. Le philosophe Kongzi rappelait avec vénération les temps des anciens empereurs Yao et Chun. Mais il se réglait principalement sur la conduite des souverains plus récents, Wen et Wu. Prenant pour exemple de ses actions les lois naturelles et immuables qui régissent les corps célestes au-dessus de nos têtes, il limitait la succession régulière des saisons qui s'opèrent dans le ciel et à nos pieds. Il se conformait aux lois de la terre ou de l'eau, fixes ou mobiles. On peut le comparer aux quatre saisons qui se succèdent continuellement sans interruption. On peut le comparer au soleil et à la lune qui éclairent alternativement le monde. Tous les êtres de la nature vivent ensemble de la vie universelle et ne se nuisent pas les uns aux autres. Tous les autres qui règlent les saisons et les corps célestes s'accomplissent en même temps sans se contrarier entre elles. L'une des facultés partielles de la nature est de faire couler un ruisseau. Mais ces grandes énergies, ces grandes et souveraines facultés produisent et transforment tous les êtres. Voilà en effet ce qui rend grand le ciel et la terre. Voilà le 30e chapitre. Il traite de la loi du ciel. Chapitre 31. Il n'y a dans l'univers que l'homme souverainement saint qui, par la faculté de connaître à fond et de comprendre parfaitement les lois primitives des êtres vivants, soit digne de posséder l'autorité souveraine et de commander aux hommes. Qui, par sa faculté d'avoir une âme grande, magnanime, affable et douce, soit capable de posséder le pouvoir de répandre des bienfaits avec profusion. Qui, par sa faculté d'avoir une âme élevée, ferme, imperturbable et constante, soit capable de faire régner la justice et l'équité. Qui, par sa faculté d'être toujours honnête, simple, grave, droit et juste, soit capable de s'attirer le respect et la vénération. Qui, par sa faculté d'être revêtu des ornements de l'esprit et des talents que procure une étude assidue, et de ces lumières que donne une exacte investigation des choses les plus cachées, des principes les plus subtils, soit capable de discerner avec exactitude le vrai du faux et le bien du mal.
Ses facultés sont si amples, si vastes, si profondes, que c'est comme une source immense d'où tout sort en son temps. Elles sont vastes et étendues comme le ciel, la source cachée d'où elles découlent est profonde comme l'abîme. Que cet homme souverainement saint apparaisse avec ses vertus, ses facultés puissantes, et les peuples ne manqueront pas de lui témoigner leur vénération. Qu'il parle, et les peuples ne manqueront pas d'avoir foi en ses paroles. Qu'il agisse, et les peuples ne manqueront pas d'être dans la joie. C'est ainsi que la renommée de ses vertus est un océan qui inonde l'empire de toutes parts. Elle s'étend même jusqu'aux barbares des régions méridionales et septentrionales, partout où les vaisseaux et les chars peuvent aborder, où les forces de l'industrie humaine peuvent faire pénétrer, dans tous les lieux que le ciel couvre de son dais immense, sur tous les points que la terre enserre, que le soleil et la lune éclairent de leurs rayons, que la rosée et les nuages du matin fertilisent. Tous les êtres humains qui vivent et qui respirent ne peuvent manquer de l'aimer et de le révérer. C'est pourquoi il est dit que ses facultés et vertus puissantes l'égalent au ciel. Voilà le 31e chapitre. Il se rattache au chapitre précédent. Il y est parlé des énergies ou facultés partielles de la nature dans la production des êtres. Il y est aussi question de la loi du ciel. Chapitre 32. Il n'y a dans l'univers que l'homme souverainement parfait par la pureté de son âme, qui soit capable de distinguer et de fixer les devoirs des cinq grandes relations qui existent dans l'empire entre les hommes, d'établir sur des principes fixes et conformes à la nature des êtres, la grande base fondamentale des actions et des opérations qui s'exécutent dans le monde, et de connaître parfaitement les créations et les annihilations du ciel et de la terre. Un tel homme souverainement parfait a en lui-même le principe de ses actions. Sa bienveillance envers tous les hommes est extrêmement vaste. Ses facultés intimes sont extrêmement profondes. Ses connaissances des choses célestes sont extrêmement étendues. Mais à moins d'être véritablement très éclairé, profondément intelligent, saint par ses œuvres, instruit des lois divines et pénétré des quatre grandes vertus célestes, l'humanité, la justice, la bienséance et la science des devoirs, comment pourrait-on connaître ses mérites? Voilà le 32e chapitre. Il se rattache au chapitre précédent, et il y est parlé des grandes énergies ou facultés de la nature dans la production des êtres. Il y est aussi question de la loi du ciel. Dans le chapitre qui précède celui-ci, il est parlé des vertus de l'homme souverainement saint. Dans celui-ci, il est parlé de la loi de l'homme souverainement parfait. Ainsi, la loi de l'homme souverainement parfait ne peut être connue que par l'homme souverainement saint. La vertu de l'homme souverainement saint ne peut être pratiqué que par l'homme souverainement parfait. Alors, ce ne sont pas effectivement deux choses différentes. Dans ce livre, il est parlé du saint homme comme ayant atteint le point le plus extrême de la loi céleste. Arrivé là, il est impossible d'y rien ajouter. Chapitre 33. Le livre des vers dit « Elle couvrait sa robe brodée d'or d'un surtout grossier ». Elle haïssait le faste et la pompe de ses ornements. C'est ainsi que les actions vertueuses du sage se dérobent au regard, et cependant se révèlent de plus en plus chaque jour, tandis que les actions vertueuses de l'homme inférieur se produisent avec ostentation et s'évanouissent chaque jour. La conduite du sage est sans saveur, comme l'eau. Mais cependant, elle n'est point fastidieuse. Elle est retirée, mais cependant, elle est belle et grave. Elle paraît confuse et désordonnée, mais cependant, elle est régulière.
Le sage connaît les choses éloignées, c'est-à-dire le monde, les empires et les hommes, par les choses qui le touchent, par sa propre personne. Il connaît les passions des autres par les siennes propres, par les mouvements de son cœur. Il connaît les plus secrets mouvements de son cœur par ceux qui se révèlent dans les autres. C'est ainsi qu'il peut entrer dans le chemin de la vertu. Le livre des vers dit « Quoique le poisson en plongeant se cache dans l'eau, cependant la transparence de l'onde le trahit, et on peut le voir tout entier. » C'est ainsi que le sage, en s'examinant intérieurement, ne trouve rien dans son cœur qu'il ait à se reprocher et dont il ait à rougir. Ce que le sage ne peut trouver en lui, n'est-ce pas ce que les autres hommes n'aperçoivent pas en eux?
le livre des vers dit « Sois attentif sur toi-même jusque dans ta maison. Prends bien garde de ne rien faire dans le lieu le plus secret dont tu puisses rougir. » C'est ainsi que le sage s'attire encore le respect, lors même qu'il ne se produit pas en public. Il est encore vrai et sincère lors même qu'il garde le silence. Le livre des vers dit « Il se rend avec recueillement et en silence au temple des ancêtres, et pendant tout le temps du sacrifice, il ne s'élève aucune discussion sur la préséance des rangs et des devoirs. » C'est ainsi que le sage, sans faire de largesse, porte les hommes à pratiquer la vertu. Il ne se livre point à des mouvements de colère, et il est craint du peuple à l'égal des haches et des coutelas. Le livre des vers dit « Sa vertu recueillie ne se montrait pas, tant elle était profonde. » Cependant, tous ses vassaux l'imitèrent. C'est pour cela qu'un homme plein de vertu s'attache fortement à pratiquer tout ce qui attire le respect. Et par cela même, il fait que tous les états jouissent entre eux d'une bonne harmonie. Le livre des vers met dans la bouche du souverain suprême ces paroles. J'aime et je chéris cette vertu brillante qui est l'accomplissement de la loi naturelle de l'homme et qui ne se révèle point par beaucoup de pompe et de bruit. Le philosophe disait à ce sujet « La pompe extérieure et le bruit servent bien peu pour la conversion des peuples. » Le livre des vers dit « La vertu est légère comme le duvet le plus fin. Le duvet léger est aussi l'objet d'une comparaison. Les actions, les opérations secrètes du ciel suprême n'ont ni son ni odeur. C'est le dernier degré de l'immatérialité. » Voici le 33e chapitre. Tzu ayant, dans les chapitres précédents, porté l'exposé de sa doctrine au dernier degré de l'évidence, revient sur son sujet pour en sonder la base. Ensuite, il enseigne qu'il est de notre devoir de donner une attention sérieuse à nos actions et à nos pensées intérieures secrètes. Il poursuit et dit qu'il faut faire tous nos efforts pour atteindre à cette solide vertu qui attire le respect et la vénération de tous les hommes et procure une abondance de paix et de tranquillité dans tout l'Empire. Il exalte ses effets admirables, merveilleux, qui vont jusqu'à la rendre dénuée des attributs matériels du son et de l'odeur. Et il s'arrête là. Ensuite, il reprend les idées les plus importantes du livre, et il les explique en les résumant. Son intention, en revenant ainsi sur les principes les plus essentiels pour les inculquer davantage dans l'esprit des hommes, est très importante et très profonde. L'étudiant ne doit-il pas épuiser tous les efforts de son esprit pour les comprendre ?